Gloire à Dieu, on va continuer notre étude qu'on a commencée il y a quelques semaines sur discerner les faux prophètes. Il y en a peut-être qui disent on a donc bien des choses à apprendre là-dessus, mais la Bible en parle à plein de passages, puis il y a plein de choses qu'il faut développer. Ce que ça fait, c'est que ça nous développe notre discernement pour discerner les autres, mais ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est pas juste pour discerner les autres, parce qu'on va le voir dans un message un petit peu plus loin. On peut être chrétien et agir comme un faux prophète. Puis il faut faire attention, frères et sœurs. Il faut toujours s'examiner. On a à refléter, on est des ambassadeurs du royaume des cieux. On est des représentants. On peut avoir dans nos pensées des choses qui sont pas de Dieu, dans nos paroles, des choses qui sont pas de Dieu, des agissements qui sont pas de Dieu. Puis il faut faire attention pour pas tomber dans un piège. On en parle régulièrement que l'ennemi est là, le monde dans leur ruse, puis dans leur manigance, ils essayent de nous pogner pour qu'on tombe, puis qu'on essayer de briser notre témoignage. Mais on a besoin d'en parler pour comprendre que ça fait partie de la Bible, ces enseignements-là. Puis les disciples en parlaient. Jésus en a parlé, les disciples en ont parlé. Puis s'ils en ont parlé, c'est parce que c'est important. Sinon, ce ne serait pas un sujet important. Il n'y aura aucun verset qui parlerait de ces choses-là. C'est tellement important que même dans le temps de Jésus, il y a des gens qui étaient témoins de ce que Jésus a fait et a dit. Puis ont quand même abandonné la foi. Que dire de Judas, qui était un des douze, il a participé avec les douze à vivre la puissance de Dieu, puis ça n'a pas été assez pour lui pour le dégager de ses désirs de faire une pièce rapidement. Il a été pris dans un piège. Puis sans compter les autres, comme Damas, que lui, il n'a peut-être pas vu Jésus, mais il était avec l'apôtre Paul, puis ça dit qu'il a abandonné le ministère, il a abandonné Paul pour l'amour du siècle présent. Il y a des pièges, il y a des tentations, faut pas tomber là-dedans, frères et sœurs. Faut rester ferme, parce que les attaques sont dans le but de nous ébranler dans notre foi. Mais comme le dernier chant qu'on a chanté, il donne la victoire à celui qui veut croire. Accrochez-vous au Seigneur, puis vous êtes victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On a l'assurance, quand on croit, on a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les choses semblables ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. L'avez-vous, cette assurance-là?
Oui,
okay. Mais si vous avez cette assurance-là, vous allez persévérer. Puis si vous l'avez pas, cette assurance-là, priez pour l'avoir, parce que Dieu la donne. Tu peux avoir une pleine confiance que Jésus a payé pour que tu puisses être pardonné. Puis c'est seulement que par son œuvre accomplie à la croix que tu vas te rendre. C'est pas parce que t'es bon, t'es meilleur ou quoi que ce soit. T'es sauvé par la foi. La foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, rien d'autre. Après ça, tes œuvres démontrent ta foi. Restons dans le chemin resserré. Amen. Ce que j'aime de la Bible, c'est qu'elle nous amène à ressembler à Jésus. Y en a-tu ici qui veulent ressembler à Jésus? Vous savez que Jésus, il s'appelait pas le Messie ou le Oint ou le Christ ou le Sauveur, parce que extérieurement dans sa vie, il paraissait un bon gars. Non. C'est pas pour ses qualités extérieures qu'il l'était, c'était pour ce qu'il était à l'intérieur de lui-même. C'est qu'il était le créateur de toutes choses dans le corps de Jésus. Il avait beau s'habiller comme qu'il voudra, c'est pas l'apparence extérieure qui comptait, comme qu'on a déjà dit, c'est pas l'habit qui fait le moine. Mais Jésus, s'il était le Messie, c'est pas parce qu'il était habillé en Messie. C'est parce qu'à l'intérieur de lui, il pensait, il parlait, il agissait, tout sortait de ce qu'il recevait de son Père. Il était le Messie à cause de ce qui était à l'intérieur. Vous allez le comprendre pourquoi que je dis ça. Le quatrième point de discernement qu'on veut parler aujourd'hui, on a déjà épluché trois. Qu'est-ce qu'ils font du Jésus? De quel Jésus qui parle? Dans les religions, il y a beaucoup de religions qui parlent de Jésus. Puis pour discerner si vraiment c'est un prophète de Dieu ou si c'est un faux prophète qui est en train de t'expliquer des choses, Est-ce qu'il te parle du vrai Jésus de la Bible, le créateur de toutes choses, qui était Dieu, qui est venu en forme humaine? S'il part avec cette idée-là, puis qu'il est venu du ciel, puis il est venu, puis il est mort à la croix, puis il est ressuscité, puis là, il y a aussi les doctrines qui vont autour. Est-ce qu'il croit que ce Jésus-là est ressuscité, puis que c'est par son sacrifice qu'on est sauvé? C'est encore un deuxième point, la doctrine. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Ça démontre tout pour t'expliquer si c'est une religion ou si c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Troisième point qu'on a vu, c'était important, il fallait que la personne soit née de nouveau. Si la personne qui te parle a jamais reçu la nouvelle naissance, c'est pas née de l'Esprit, ça l'a poursu le Saint-Esprit, mais elle appartient pas à Dieu, c'est bien de valeur. Tu peux pas être un enfant de Dieu sans avoir reçu le Saint-Esprit, puis tu peux pas avoir reçu le Saint-Esprit sans avoir premièrement, cru au Messie, puis cru au plan du salut qui est par la grâce, par le moyen de la foi. Ça te permet d'être de nouveau. Fait que si on passait les trois étapes, ou s'ils n'en ont pas passé une, ni une ni l'autre, mais ça te démontre si c'est un vrai prophète de Dieu ou ça n'est pas un. Aujourd'hui, on va voir un quatrième point dans les discernements, puis c'est pas moi qui les ai inventés. Tous ces points-là sont écrits dans la première épître de Jean au chapitre 4. Il parle de tous ces sujets-là. Quatrième point pour discerner si c'est un prophète de Dieu ou pas, marche-t-il dans l'amour? Là, vous allez dire, ouch. Parce que ça compte. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu vois, ah, oh, il a accepté Jésus. Il y a plus que ça. Puis vous allez le voir dans les enseignements. Lorsqu'on recherche la perfection, parce qu'on veut tous ressembler à Jésus, un disciple du Seigneur, quelqu'un qui se convertit, c'est parce qu'il hait sa vie de péché, puis il veut changer. C'est ça que Dieu veut, il veut que tu te repentes. Si tu veux rester comme tu étais avant, tu ne changeras pas. Il n'y a rien qui va changer, tu ne seras même pas pardonné. Faut que tu repentez-vous, puis là, tu t'engages à suivre Jésus-Christ en le confessant, puis là, tu vas recevoir le Saint-Esprit qui va t'accompagner dans ta marche de chaque jour pour t'amener à être comme Jésus. Lorsqu'on recherche la perfection, c'est ça qui est le but, cela nous amène à s'examiner pour demander au Seigneur de nous changer intérieurement. Parce que quand tu commences à être changé intérieurement, c'est là que ton extérieur va changer. Dans Matthieu 23, les versets 25 et 26, ça nous dit, Jésus est en train de parler à des gens religieux, ça fait longtemps qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Les pharisiens, c'était des gens instruits dans la parole. Jésus lui dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » Le mot « hypocrite » dans le texte grec veut dire « homme faux ». Un acteur, c'était pas des vrais. Jésus lui dit, « Vous êtes pas des vrais, vous êtes des hommes faux, vous êtes des acteurs, des hypocrites. » Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, c'est plein de rapines et d'intempérance. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Jésus n'était pas le Messie ou le Christ à cause de son extérieur. Il l'était parce qu'il était à l'intérieur de lui, sans péché dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses agissements. Mais ça commence à l'intérieur, dans ses pensées. Si Arajus était un gars qui fait attention de ne pas en laisser sortir, mais que dans ses pensées, ça tourne dans le péché, il n'aurait pas été le Messie. Il n'aurait pas pu nous racheter. Il aurait eu des pensées impures, il aurait été adultère. Il aurait eu des pensées de voler, il n'aurait fait des vols. Ce que tu penses, c'est ça, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les faux témoignages. Toutes ces choses souillent l'homme, mais ça sort du cœur, de l'intérieur. Puis Jésus les a dit aux pharisiens de son époque, vous nettoyez l'extérieur du plat, mais le dedans, il est plein de rapines et d'intempérance. Il dit, hypocrite, commence par laver l'intérieur, puis l'extérieur va devenir net. Jésus, il voulait pas juste parler des assiettes, là. Il voulait parler de l'état d'être d'une personne. T'as beau de mettre des soins, prendre une demi-heure le matin avant de venir à l'église pour te pomponner, te maquiller ou les prendre ta douche. Je parle pas juste pour haut, pour juste pour les femmes. Il y a des gars aussi qui sont longtemps à préparer leurs extérieurs. Mon gars, c'est bien plus long que ma femme. Un de mes gars. On prend bien du temps à soigner l'extérieur, puis même pas 30 secondes de prière pour préparer notre intérieur. On prend beaucoup de soins pour l'apparence, puis on n'en prend pas pour notre état réel qui vient de l'intérieur. Jésus dit, vous les reconnaîtrez, les faux prophètes, à leurs fruits. Le fruit, c'est ce qui sort. Tu veux faire attention dans ton extérieur à pas laisser passer rien, mais s'ils sont dans ton intérieur, ça finit par sortir. Un des points que l'apôtre Jean y a prêché pour discerner si c'est un vrai ou un faux, est-ce que leurs œuvres sont manifestées par l'amour puis dans l'amour? Vous allez comprendre comment c'est important. Dans 1 Jean 4, les versets 7 et 8 que ça nous dit cela, l'apôtre Jean dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Ah, pourtant, le gars, il va dire, « Oui, je suis un prophète de Dieu. » Mais dans son cœur, il n'y a pas d'amour. C'est ça qu'on veut développer. Ça se peut-tu qu'il y en a qui se proclament dans des choses, dans l'extérieur, mais en dedans, ils ne le sont pas? La principale caractéristique d'un réel représentant du royaume de Dieu, c'est l'amour. C'est sûr que la foi, ça prend la foi pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais une fois que tu es dans le royaume de Dieu, pour vraiment démontrer qui ce que tu es, la principale caractéristique, c'est l'amour. C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 13, les versets de 1 à 3. Là, je vais vous le lire en français. Je pense que c'est en français courant ou le sommaire, le français courant. Ça va être plus facile à comprendre. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance, comprendre tous les mystères, et je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si j'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela me sert de rien. Ce passage-là, il est profond. Parce que ça nous parle du mobile qui doit nous animer quand on est en train de servir Dieu. T'as beau avoir les discours que ça voudra, la connaissance que ça voudra, ou même le zèle à répandre tes biens, à vouloir être occupé de réparer tous les problèmes du monde. Si tu fais pas ça par l'amour, t'es rien. Ça sert à rien que ça dit dans ce verset-là. T'as beau avoir fait beaucoup de choses extérieurement, c'est bon pour les apparences, mais en dedans, qui regarde, qui sonde les reins et les cœurs? Qui voit tout? Les mobiles, les attitudes, les pensées, ce qu'on nous anime. Dieu voit tout, il nous sonde, puis il nous connaît entièrement. Il nous connaît même avant même qu'on rouvre la bouche pour parler, il savait déjà qu'est-ce qu'on était pour dire. Il voit tout. Puis si on n'a pas vraiment, on marche pas par l'amour, ça sert à rien, puis nous sommes rien. L'amour pour les autres est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quand tu t'engages à suivre le Seigneur, peut-être que tu n'en avais pas d'amour. Ça se peut. Tu n'en as pas eu d'amour quand tu étais enfant. Ça se peut. Puis ça a fait que tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Ça se peut. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, il y a quelque chose qui s'est produit. Tu as reçu quelque chose d'autre. Tu as reçu une nouvelle nature. t'as reçu le Saint-Esprit. Puis là, c'est le Saint-Esprit que la Bible nous dit qui va répandre son amour dans nos cœurs. C'est le fruit de l'Esprit. L'Esprit Saint veut t'amener à ce que tu sois un canal d'amour, même si t'en as pas eu quand t'étais jeune. C'est pas une excuse, parce que t'es plus supposé de marcher dans ta vieille nature, t'es supposé de marcher dans la nouvelle nature que tu reçois. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui va mettre cet amour-là dans ton cœur. Il y a un verset qui le dit, « Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Fait que quand tu deviens un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, parce que tu avais les autres critères, t'as cru, puis t'as confessé, puis t'es un repentant, t'as reçu le Saint-Esprit, ta vie commence à changer parce que le Saint-Esprit vient de rentrer, puis là, il se passe de quoi? Tu vas commencer à changer même face à Dieu, peut-être tu priais jamais avant, puis là, tu commences à prier, puis peut-être aussi que tu n'aimais pas le monde qui t'entourait, puis tu commences à les aimer. Ton mobile de servir Dieu va être parce que tu aimes Dieu, puis parce que tu aimes les frères et sœurs. Pour l'amour pour les autres, puis l'accomplissement. L'amour pour les autres, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tu es en train de plaire à Dieu quand tu marches dans l'amour. Dans Romains 13, 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. On, pour ceux qui étaient là mercredi, on en a parlé. Parce que tu as un manque d'amour envers ton prochain, tu te trouves à pécher contre les commandements de Dieu. Parce que le commandement de Dieu, le résumé du commandement de Dieu, Jésus le dit, le résumé des 10 commandements, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, puis aime ton prochain comme toi-même. C'est les 2 commandements qui résument les 10 commandements. Fait que quand tu marches dans l'amour de Dieu et de ton prochain, tu es en train d'accomplir toute la loi. C'est ce que ça dit dans Romains 10, 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Jésus est venu puis a accompli la loi. Fait que quand j'accepte Jésus, je suis déclaré juste à cause de la justice de Jésus. Mais après que je suis chrétien, comment est-ce que moi je vais pouvoir marcher d'une manière juste devant Dieu? Ben, marche dans l'amour. Marche dans l'amour, puis tu vas l'avoir accompli toi aussi, la loi. Tu ne chercheras pas nécessairement à être à la virgule dans tous les points de la loi, mais tu vas marcher dans l'amour. Puis si tu dis j'en ai pas d'amour, mais fais-toi-en pas, le Saint-Esprit va t'en mettre. Ça vient de lui. Lorsqu'une personne dit qu'elle aime Dieu et qu'elle n'aime pas les enfants de Dieu, c'est un menteur. Tu peux dire des choses extérieurement pour l'apparence peut-être, mais si tu n'aimes pas les enfants de Dieu, tu es un menteur. C'est ce que 1 Jean, dans l'épître de Jean, le même épître que j'ai dit que les points de discernement sont là, dans le même chapitre, 1 Jean 4, le verset 20 et 21, c'est bien écrit noir sur blanc, allez lire ça, ça vaut la peine. Si quelqu'un dit, c'est en cours des paroles, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voyez-vous que dans le point de discernement, pour commencer à discerner les faux des vrais, tu vas analyser son intérieur. C'est pas par l'extérieur, parce que l'extérieur, il dit « j'aime Dieu ». Là, tu vas vouloir le sonder, mais là, je dis ça en regardant les autres, mais il faut s'examiner soi-même pour pas qu'on soit pareil comme les faux prophètes. Ceux qui disent, mais qu'en dedans, ils ne le sont pas, Jésus nous demande, puis Dieu nous demande de s'aimer les uns les autres. Bon, mais donc, si j'arrive pas à aimer les frères, qui sont aimés de Dieu. Comment je peux dire que j'aime Dieu que je ne vois pas? Je peux frapper un nœud si Dieu... Mettons, si j'haïs Jean Bruno, Puis là, Dieu m'apparaît, puis il y a le visage de Jean Bruno. Je vois-tu tomber à terre? J'étais pas capable de le sentir, je l'aimais pas, je voulais qu'il disparaisse de ma vie, puis j'arrive l'autre bord, puis c'est le visage de Jean Bruno que je vois, c'est Dieu, le visage de Jean Bruno. Comment je peux dire que j'aime Dieu que je vois pas, si je suis même pas capable d'aimer mon frère que je vois? Dieu veut nous amener à réaliser, premièrement, qu'on doit marcher dans l'amour, mais deuxièmement, à part que de dire que j'aime, mais que je sois capable d'aimer mon prochain, celui qui est juste à côté de moi, et particulièrement les frères dans la foi. Vous allez voir pourquoi dans d'autres versets. Lorsqu'une personne dit qu'elle est dans la lumière, « Ah, je suis dans la lumière, je suis dans la communion de la lumière, je vois la lumière. » Il y en a que je n'ai déjà vu des personnes qui tripaient comme ça. Mais il y en a que c'est à cause qu'ils avaient pris un joint, mais même dans notre vie de chrétien, on peut arriver des fois au début de notre vie chrétienne puis qu'on en sort des bonnes comme ça. Lorsque quelqu'un il dit qu'il est dans la lumière puis qu'il n'aime pas les enfants de Dieu, ben il est dans les ténèbres. Dans 1 Jean 2, le verset 9 à 11, ça nous dit exactement cela. Encore, Jean qui nous parle de cette explication-là, pour nous donner du discernement. Une personne qui arrive et dit « J'aime Dieu » ou « Je suis dans la lumière » puis qu'elle n'aime pas les frères et sœurs dans la foi, peu importe le statut, ça peut être un pauvre, ça peut être quelqu'un qui n'a aucune scolarité ou qui est mal habillé, etc. Des fois, on est porté, on veut même pas y parler. Dieu veut que tu l'aimes, ce pauvre-là. C'est là que l'amour de Dieu va se manifester. Et celui qui dit qu'il est dans la lumière, dans 1 Jean 2, verset 9 à 11, et qu'il est son frère, il est encore dans les ténèbres. Fait qu'il n'est pas dans la lumière, il est dans les ténèbres, il est aveuglé. Il se pense correct, mais il n'est pas correct devant Dieu. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute est en lui. Mais celui qui est son frère, il est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Pourquoi qu'on va dire que quelqu'un qui n'aime pas son frère, les ténèbres ont aveuglé ses yeux? Parce que Dieu nous avait demandé de s'aimer les uns les autres. En parlant de ses disciples, là. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Fait que si plusieurs fois Jésus a répété ces commandements-là, puis les apôtres aussi nous ont dit « Aimez-vous, 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 comme vous vous aimez ou comme Jésus nous a aimés, mais on n'a pas le droit de s'haïr. » Fait que si une personne rejette des frères et sœurs puis les haït, mais il est dans les ténèbres, puis il sait pas où il s'en va, puis il dit n'importe quoi. C'est puissant, les ténèbres. On pense que c'est pas grave. Les ténèbres aveuglent les yeux des chrétiens, puis les chrétiens ne pratiquent plus la parole. Puis ils s'en foutent même d'en vouloir à l'autre, puis de l'haïr, puis ils vont parler en son dos, puis ils vont détruire sa réputation, puis il va y avoir toutes sortes d'actes de méchanceté qui vont se faire, puis ils pensent tous être sauvés par la grâce, puis ils pensent tous que Dieu va les accueillir avec un sourire. C'est grave quand on se met à haïr quelqu'un puis qu'on parle dans son dos puis qu'on le détruit. On pense qu'on est animé de l'esprit de discernement puis qu'on se pense correct. Mais en réalité, on est en train de démolir un frère dans la foi, un enfant de Dieu, puis que là, cet enfant de Dieu-là que je serais supposé d'aimer, je le rejette puis je pense que je suis correct. On est dans les ténèbres ont aveuglé nos yeux, on ne voit plus où est-ce qu'on s'en va, puis on marche contraire à la volonté de Dieu. Il y a encore plus fort que ça. Un des fruits de quelqu'un de réellement sauvé, c'est qu'il aimera les chrétiens. Puis vous allez le voir dans l'autre verset, on va tout dire, ouch. 1 Jean 3, 14, 15, ça nous dit, Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Voulez-vous le savoir? Si, voulez-vous avoir l'assurance que vous êtes sauvés? Mais c'est parce que vous le savez parce que vous aimez les frères. Si vous avez, puis vous allez le voir, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est là qu'il va le « ouch ». Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il se pense sauvé, il est mort spirituellement. Déconnecté d'avec Dieu, parce que Dieu veut te sauver dans le but que tu marches dans ses voies. Puis sa voie, c'est « aimez-vous les uns les autres », une de ses voies. Mais si tu n'arrives pas à vivre dans cette voie-là, puis tu penses que c'est pas grave, puis on peut haïr tout le monde, les frères et sœurs, on les haït, on pense qu'on est dans la vérité, puis ça dit « celui qui n'aime pas demeure dans la mort ». Verset 15, « quiconque hait son frère est un meurtrier ». C'est la même chose que j'ai enseigné de l'Épître de Jacques mercredi. Si tu fais des exceptions de personnes, tu haïs quelqu'un, tu le rejettes ou tu le méprises, mais tu viens d'être coupable de toute la loi. C'est ce que je vous ai enseigné, c'est répété ici par l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Il dit, si tu haïs ton frère, tu es un meurtrier. Meurtrier, c'est un des 10 commandements de Dieu. Tu deviens coupable d'un commandement, tu deviens coupable de tout. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il y a un autre « ouch » qui va là. Si quelqu'un il est chrétien, puis il se pense chrétien, puis il dit qu'il est chrétien, puis il dit qu'il aime Dieu, puis il dit qu'il est dans la lumière, mais s'il haït un frère ou des frères, il est aveuglé par les ténèbres, puis il s'en rend même pas compte, il se pense sauvé, puis il est mort spirituellement. Parce que la Bible, elle nous dit qu'on devient des meurtriers quand on haït des chrétiens. Dans ce verset-là, au début, le verset 14 nous dit, « Nous le savons que nous sommes sauvés, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. » Mais si tu vas avoir une réponse dans ta vie pour évaluer quelle est ta qualité de vie spirituelle, fais juste essayer de penser comment tu aimes les frères ou je ne les aime pas. Si tu haïs, là, ta vie spirituelle est rendue à terre. Il n'y a aucune place dans la vie d'un chrétien pour la haine. Tu n'as pas le droit d'haïr un frère ou une sœur. Puis si tu te lances dans ce chemin-là sans te repentir, tu meurs spirituellement, tu es déconnecté d'avec Dieu. Même si on dirait quoi que ce soit, ce verset-là, pas juste celui-là, mais les autres que j'ai lus, l'exprime, puis le mentionne, puis l'enseigne. Quiconque, peu importe qui ce que c'est, même si ça serait un apôtre, s'il haït, il est rendu un meurtrier, il n'y a pas de vie éternelle demeurant en lui. Paul y avertit les Corinthiens, parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui marchaient contraire à la parole de Dieu. Il y avait des pasteurs dans l'église de Corinthe qui enseignaient des faussetés, puis ils marchaient contraire à la volonté de Dieu. Puis le passage qu'on va lire, on en a parlé quelques fois, mais dans 2 Corinthiens 11, les versets 13 à 15, Paul y avertit les Corinthiens qu'il y avait des faux apôtres qui cherchaient à contrôler l'église de Corinthe. Puis, regardez ces passages-là. Premièrement, pour détailler qui sont faux apôtres, après ça, on verra un point qui est enseigné. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour faire le contraire de qu'est-ce qu'un apôtre aurait dû faire? 2 Corinthiens 11, 13 à 15 nous dit, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice, puis leur fin cela selon leurs œuvres. J'en ai parlé un peu la semaine passée quand c'était le temps. Oh, tu me juges. J'ai expliqué qu'il y avait une différence, que le mot juge, jugement, juger quelqu'un, dans la Bible, c'est il y a au moins deux sens. Mais les deux sens qu'on va voir, il y a un verset qui dit tu ne jugeras pas, puis l'autre verset qui nous dit juger, d'analyser. Juger dans le sens, tu n'as pas le droit de les condamner, de donner des sentences, pas à nous à donner des sentences, c'est Dieu qui donne des sentences. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être aveugle sur les situations. La Bible nous demande de juger les faux prophètes dans le sens d'analyser, de prendre garde. Si tu ne les as pas analysés, tu ne peux pas le savoir. Mais l'apôtre Paul, lui, avait analysé clairement qu'il y avait des gens qui se disaient apôtres dans l'église de Corinthe. Puis ces gens-là, il va encore plus fort que qu'est-ce que j'aurais parlé, les a traités de ministres de Satan. Paul, il les a traités de ministres de Satan parce qu'il est en train de faire des œuvres du diable. Puis il a dit, c'est pas étonnant. Il dit, Satan lui-même, il se fait passer pour un ange de lumière. Il est pas étonnant que ses ministres à Satan se font passer pour des ministres de Christ. Puis il était dans l'église de Corinthe. Qu'est-ce qu'ils faisaient de mal, ce monde-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui était contraire à la volonté de Dieu? Ça, c'était au verset 15. Cinq versets plus loin, l'apôtre Paul le dit, qu'est-ce qui se passait de ces apôtres-là, qu'est-ce qu'ils faisaient, puis qui démontraient des œuvres qui ne sont pas des œuvres de marcher dans l'amour. Leur principale caractéristique, à part d'enseigner des faussetés, parce qu'il y avait des points de doctrine qui étaient faux, ça on le voit dans un autre verset, mais il exerçait un contrôle de l'Église par la violence. Alors, regardez bien le verset 20. De 2 Corinthiens 11, 20. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez? C'est ça qui faisait ces faux apôtres-là. Ils contrôlaient l'Église, ils dominaient par la violence. Avez-vous déjà vu ça dans des églises, que des pasteurs prenaient le contrôle, puis ils battaient les gens, puis ils donnaient des punitions sévères, qu'au point qu'un enfant il est fini par être mort, ou que ils battaient les gens. J'ai vu des vidéos aussi que le pasteur piétinait les fidèles, les brebis, là, il était avancé en avant, puis pour les délivrer, il piétinait, puis il sautait dessus. Dans des pratiques de toutes sortes, de contrôle, là, quand un pasteur va arriver, puis il va contrôler, puis là, il domine mentalement, psychologiquement les gens, puis il contrôle, puis il les tient par la peur, puis il les frappe, même physiquement. Un dominant, là, quelqu'un qui est un arrogant, quelqu'un qui se pense supérieur, puis qui il écrase les brebis, puis il les tient dans la peur. Mais ça, c'est pas marcher dans l'amour. Voyez-vous, le problème, il est là. Un véritable serviteur de Dieu doit toujours être motivé par l'amour de Dieu puis l'amour des brebis. C'est l'amour qu'il faut vivre pour tout le monde. Puis si une personne commence à manipuler, à contrôler, à faire des menaces, puis à faire des contacts physiques de méchanceté, puis de contrôle, puis de dominer, puis de commencer à frapper les autres, là, parce que la Bible en parle de ça dans un passage avant son retour. Il dit, si c'est un méchant serviteur, il mange et boit avec les ivrognes, puis il se met à battre les serviteurs. Mais il dit, le maître, quand il va arriver, il va le mettre en pièce, puis il va lui donner sa part avec des hypocrites. Jésus demande à tous ses disciples de marcher dans l'amour. Dans 1 Pierre 5, 2, excusez, je vais vouloir un autre. Oui, c'est. Non, 1 Jean 3, 16. Les véritables serviteurs de Dieu doivent toujours être motivés par l'amour de Dieu puis l'amour des brebis. Dans 1 Jean 3, 16. Et Dieu, nous l'avons connu, l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Y en a-tu qui sont prêts à arriver à ce stade-là? Mais si vous avez cet élan-là, puis il faut que vous l'ayez, êtes-vous prête à donner votre vie pour vos frères? Les aimez-vous assez pour être prête à donner votre vie pour les frères? Je parle pas d'aller de suicide collectif, là, puis de se suicider. Non, non. Tu donnes ta vie au point des aimer tellement que tu vas te donner au service de tous les frères. Tu veux aimer tes frères comme Jésus nous a aimés? Comment tu vas le manifester? Donne ta vie. Sers le Seigneur dans les frères et sœurs. Mets tes dons au service de l'Église. Aide les autres. Prie pour eux. On va en voir quelques versets. Les véritables serviteurs de Dieu ne servent pas parce qu'ils sont forcés, ni pour l'argent. Si on voit ça dans 1 Pierre 5:2, qui dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. » Faut que tu le fasses, pas parce que t'es forcé, t'es obligé. Faut que tu le fasses parce que t'as le cœur à vouloir aider les autres, les nourrir spirituellement, d'en prendre soin. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Tu le fais pas parce que tu veux de l'argent, tu veux t'enrichir. Tu le fais parce que tu donnes toi-même pour les autres. C'est ça, t'as une caractéristique d'un vrai serviteur de Dieu. On doit marcher dans l'amour. Jésus a parlé des mercenaires. Ils se mettent pas en peine des brebis. Ils abandonnent les brebis. Un mercenaire, il est là parce qu'il est payé pour faire la job. Il a sa paye, puis peu importe ce qui arrive aux brebis, il s'en fout. Il va pas le voir, il jase pas avec. Il parle pas du Seigneur. Il est là juste pour la paye. Puis le loup arrive, puis il fait du ravage, puis lui, il laisse aller, puis ça il dérange pas. Ça il souffre pas de voir les brebis souffrir, parce que lui, il est là pour sa paye. Quand ça va trop mal, il sauve. C'est ça que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, les versets 11 à 13. Jésus l'a dit, je suis le bon berger, puis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un bon berger, il va donner sa vie. Il va avoir un loup, il va avoir un lion, il va avoir un ours qui vient pour prendre une brebis. Le bon berger, il va sauter dans le tas, puis il va aller y enlever la brebis de dedans la bouche. Pareil comme David faisait avec les brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite, puis le loup les ravit puis les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, puis il se met pas en peine des brebis. Mais ça, quand Jésus a dit ça, il voulait parler de lui, Jésus qui était le bon berger. Mais il voulait aussi parler du mobile. Qu'est-ce qui anime un chrétien quand il est là, en train de servir dans l'Église? Il est-tu là parce qu'il est mercenaire? Parce qu'il veut avoir une paye, il va avoir son salaire, faire la job, mais mande-moi-en pas plus. Puis s'il voit qu'il y a du trouble, il s'en va, il veut pas se mêler de rien. Il laisse les brebis s'arranger avec le trouble. Les hommes de Dieu cherchent à servir et à s'investir par amour pour les brebis. Jésus va récompenser ceux qui sont au service pour la bonne cause. Dans Matthieu 25, les versets 40, quand j'y vais au renouvellement de toutes choses, quand le Seigneur va venir puis il va donner ses récompenses à ses brebis, puis les boucs à sa gauche, il va dire aux boucs de s'en aller dans les temps de feu, puis il va dire à ses brebis, le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, il dit, c'est à moi que vous les avez faites. » Fait que quand tu sers le Seigneur dans les frères, les enfants de Dieu, il dit, c'est comme si tu étais en train de le faire à Jésus. Puis le contraire aussi, si j'haïs un frère, je suis en train d'être un meurtrier, je suis en train d'haïr Jésus. Ouch! On n'a pas le droit. Un chrétien n'a pas le droit d'haïr au point que s'il se met à haïr un chrétien, la vie éternelle n'est plus en lui, que Jean nous a dit. C'est un meurtrier. Puis il marche dans les ténèbres ont aveuglé leurs yeux. Si vous entendez un chrétien qui vient vous dire, « Moi, ce chrétien-là, je suis pas capable de le sentir. » Dis tout de suite, « Tu veux-tu être sauvé? » Mais repens-toi Demande à Dieu qu'il remplisse ton cœur de son amour, puis remets toute ton amertume au Seigneur, pour que le Seigneur t'en délivre, pour que tu puisses marcher d'une manière d'aimer ton frère que tu vois. Sinon, tu risques que les ténèbres t'emportent loin du Seigneur. Un véritable serviteur de Dieu va intercéder pour les brebis, parce qu'il y a de l'amour pour les brebis, il va prier pour les brebis. Dans Romains 15, 30, il nous dit, « Je vous exhorte, frères, par le notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières. » Fait que quand tu es animé de l'Esprit de Dieu, tu es rempli de l'amour de l'Esprit, puis à cause de cet amour-là, mais tu vas vouloir combattre. Tu vas aimer, puis tu vas surveiller l'état spirituel des brebis en les aidant à avancer spirituellement. 2 Corinthiens 2, 4. L'apôtre Paul, là, il avait cet amour-là pour les brebis. On va le voir dans ce verset-là. Il dit, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Non pas que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Voyez-vous? L'apôtre Paul, quand il écrivait ses lettres, puis des fois ça va de l'être des lettres de réprimande ou des lettres d'encouragement ou des lettres pour les renseigner sur les vraies affaires, mais il faisait avec angoisse, affliction, puis avec des larmes. Ça lui faisait de la peine de voir l'état de l'autre église, puis là il essayait d'envoyer une lettre pour essayer de rectifier ce qui marche pas, pour les ramener. C'est parce qu'ils aimaient l'amour extrême qu'il y avait. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Voyez-vous, comment est-ce qu'on fait pour discerner les vrais des faux? Des fois, ça paraît pas à l'extérieur. Regardez l'intérieur, regardez le fruit. Il marche-tu dans l'amour? Son mobile, il est-tu dans la haine, dans la méchanceté? C'est là que tu vas discerner. Pour conclure, on revient sur un passage de l'Épître de Jean, le passage qui nous en parle. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Prions. Seigneur, je te remercie pour les beaux versets que nous voyons à ta parole, qui nous amènent encore plus à s'aimer, à s'investir, à donner nos vies, faire avancer ton œuvre. Seigneur, on veut pas paraître pour être faux prophète. On veut marcher dans l'amour de chacune de tes brebis, comme si on t'aimait toi-même. Seigneur, pour ceux qui ont de la misère à aimer, qui ont de la rancune, qui ont de l'amertume, qui ont de la colère ou de la méchanceté carrément, délivre tes enfants, délivre ton peuple, libère-les des griffes des ténèbres, qu'ils puissent être libérés des ténèbres, puis de marcher dans la lumière véritable qui est l'amour. Que ton Saint-Esprit puisse nous remplir de ton amour, nous revêtir, que tout ce qu'on fait, notre mobile principal, soit l'amour. Puis merci Seigneur de ce que tu vas faire dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.